Radio Kapi.
Encore des tueries en Ituri. Cette fois-ci, il s'agit de 11 personnes, toutes des civils, qui ont été massacrées par des ADF dans la nuit d'hier lundi à ce mardi à Ndimo, dans le territoire d'Irumu. Des activistes de droits de l'homme dénoncent la léthargie des forces conjointes pour déjouer cette attaque menée à moins de 5 km de leur base. Clôture hier du dépôt des candidatures à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Deux candidats uniques pour les postes de président et de rapporteur sont Vital Kamer et Jacques Joly, mais pour chacun des autres postes de ce bureau définitif de la chambre basse du Parlement, plusieurs candidats se bousculent. Notre invité s'appelle Bienvenue Bouende. Il est le chargé de communication du parc national des Virunga. Il nous parle de l'impact de la zone industrielle créée depuis 2 ans maintenant par l'alliance Virunga à Munigi dans le territoire de Nyiragongo. Bonjour à tous. Ce journal part de l'Ituri. 11 civils ont été tués par des ADF et plusieurs maisons incendiées dans la nuit de lundi à ce mardi à Ndimo, à 105 km au sud de Bunia, sur la route nationale numéro 4, axe Komanda Luna, dans le territoire d'Irumu. Des activistes des droits de l'homme dénoncent la léthargie des forces conjointes pour déjouer cette attaque qui s'est produite à moins de 5 km de leur base. Ils ajoutent que ce drame intervient 2 jours après la mission de paix de l'administrateur d'Irumu dans cette entité, Martial Kizabiamungu.
Un groupe de rebelles de ZADF en provenance de la profondeur de la forêt des Banda Vilemba s'est introduit en Ndimo vers 19h quand la population vaquait normalement à ses occupations. Selon des sources locales qui citent des témoins, ces rebelles ont ouvert les feux sur les habitats et ont mis les feux sur certaines maisons. Le bilan provisoire est de 11 morts, précisent les mêmes sources. Parmi les victimes, il y a 2 femmes et 1 homme qui ont été calcinés dans leurs habitations. Christophe Mnyadero, l'un des activistes des droits de l'homme dans la région, déplore l'inaction des forces conjointes FRDC et UPDF pour traquer ces inciviques.
L'épicentre de l'ADF, c'est au niveau de Wallace et Vokutu. En passion, peut-être, on devrait renforcer tout d'abord les dispositifs sécuritaires sur les tronçons Komanda Luna et voir comment appuyer les militaires UPDF.
Nous n'avons pas réussi, malgré nos efforts, à avoir l'administrateur du territoire d'Irumu à ce sujet. Il y a 3 jours, cette autorité territoriale a tenu un meeting populaire à Ndimo pour dénoncer certains fils d'humiliés qui se sont déguisés en ADF. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, des nouvelles du front. Des violents combats ont opposé dans la matinée de ce mardi l'armée congolaise et les combattants locaux au M23 autour de l'agglomération des Kikuku, au chef-lieu de la chefferie de Buite au territoire de Rutshuru. Pendant ce temps, nos sources parlent d'une accalmie autour du chef-lieu du territoire de Masisi après des affrontements toute la journée d'hier lundi. Bernard Danyangi.
Dans le territoire de Rutshuru, après d'intenses combats depuis 5 heures du matin ce mardi, certaines sources proches des groupes armés locaux parlent de bombardements de FRDC qui ont atteint plusieurs positions de rebelles près de Kikuku. Une artillerie lourde d'M23 aurait été détruite, indiquent ces sources, une information qui reste à vérifier. Toutefois, ces sources indiquent que ces combats, qui font suite à d'autres affrontements le week-end dernier, entraînent d'autres conséquences. Des centaines d'autres ménages ont fui Kikuku et ses environs en direction de Kanyabayonga, Lusuli et Mutanda, entre autres. Par ailleurs, un calme précaire est observé ce mardi dans la zone de Ufamandu ainsi qu'autour de Katale dans le territoire de Masisi. Ces axes ont été toute la journée d'hier lundi le théâtre de violents combats entre les M23 RDF et les groupes armés locaux. Ces combats étaient concentrés autour des villages Luizi, Gasake et Remeka dans le Ufamandu, ainsi qu'à Katovu et Kaniro près de Katale, groupement Biiri. La situation reste volatile, notamment dans le chef-lieu de Masisi et Aziral au sud de Ufamandu, dans les territoires voisins de Kale, au sud Kivu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
2 personnes ont été tuées dimanche dernier au village Lutandula, à Lufira, province du Haut-Katanga, à près de 80 km de la ville de Lubumbashi. Des sources militaires indiquent que ces meurtres ont été commis par des présumés miliciens Bakata-Katanga. Au vu de la psychose que ces événements ont créée, l'armée appelle la population au calme et indique que la situation est sous contrôle. Jean Gandou.
Ces incidents ont eu lieu dimanche aux petites heures du matin. Les présumés miliciens Bakata Katanga ont attaqué une position du 2e bataillon des FRDC au village Lutandula. Ils ont tué un sergent et un agent du service national. L'armée les a pourchassés et a mis la main sur deux d'entre eux et quatre suspects. Dans cette traque, l'armée a saisi aussi une camionnette transportant, entre autres, 11 armes AK-47, du matériel de communication, des panneaux solaires, des chargeurs garnis et une importante quantité de munitions, renseigne une source proche de la 22e région militaire. Elle indique aussi que pour l'instant, la situation est sous contrôle et toutes les activités qui étaient paralysées dans ce secteur ont repris depuis lundi. Les personnes interpellées et la camionnette interceptée ont été ramenées à la 2e zone de défense à Lubumbashi. À ce sujet, l'ONG dénommée le Centre international pour la promotion et développement des droits de l'homme recommande à l'armée de perquisitionner les fermes qui sont dans les secteurs où ont eu lieu ces incidents. À la population, elle recommande de coopérer avec les services de sécurité pour dénoncer tous les suspects et leurs cachettes afin qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Toujours dans l'espace Grand Katanga, à Kalemie, manifestation ce mardi de la population suite à la mort d'un jeune commerçant. Il a été tué par balle à son domicile par des bandits dans la nuit de dimanche à lundi. L'incident s'est produit au quartier Abattoir dans la commune Lukuga. Le mouvement citoyen Parlement debout sans tabou dénonce la recrudescence du banditisme urbain à Kalemie et demande aux autorités de renforcer la sécurité. On écoute Nathan Mugisho, président du Parlement debout sans tabou, au micro de Paulin Munanga.
L'une des victimes de l'insécurité, notamment M. Mugisho Chombo, un jeune âgé de 22 ans qui a été fusillé avant-hier à son domicile par des bandits à main armée, il est décédé à l'hôpital Undugu. Et ça touchait la colère des commerçants, parce que lui-même petit commerçant, ça touchait la colère de toute la population. Et c'est ainsi qu'une marche de colère spontanée pour dénoncer l'insécurité a eu lieu depuis l'hôpital Undugu sous la place Kisebwe jusqu'à la place Maendeleo. Et nous étions en train de marcher en scandant les chansons de mandat à l'État de prendre ses responsabilités, et dont la première des responsabilités, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. La population, le marchand, n'ont pas voulu voir les hommes en uniforme. Comme qui dirait, on en a marre d'être victime de l'insécurité, mais les services de sécurité ne font absolument rien. L'État ne fait absolument rien. On a marché et maintenant là, on a laissé les corps de cette victime à la morgue de l'hôpital général des références de Kalemie.
Le dépôt des candidatures à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale est clos depuis hier lundi. Mis à part Vital Kamere et Jacques Joly, qui postulent comme candidat unique au poste de président et de rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Tulumbayi, Christophe Mbosso, Dominique Munongo, Serge Bahati et Caroline Bemba ne sont pas les seuls à avoir postulé pour les autres postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Michel Kifindangoy.
En dehors de Vital Kamere et Jacques Joly, candidat unique président et rapporteur de l'Assemblée nationale, les autres postes ont enregistré deux candidatures ou plus. À la première vice-présidence, la candidature de Jean-Claude Tshilumbayi de l'UDPS fera face à celle de Ngoï Kassangi de l'AFDCA. Christophe Mbosso se dispute le poste de deuxième vice-président avec Antipas Mboussanya Mouissi et André Litté. Dominique Munongo de Ensemble pour la République est dans la course contre Constant Mutamba pour le poste de rapporteur adjoint. Serge Bahati, désigné par le Présidium, se dispute la question avec John Banza. Dédé Moupassa est dans la course avec Patrick Eshiba et Trésor Lutala contre Caroline Bemba, désignée par le Présidium de l'Union Sacrée, candidate questeur adjointe.
Du côté du Sénat, notez l'ouverture ce mardi de la session inaugurale. La plénière a débuté il y a une vingtaine de minutes. Elle est présidée par le secrétaire général du Sénat, conformément à l'article 114 de la Constitution, qui stipule notamment que les sénateurs se réunissent de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats provisoires. Ainsi, au cours de la plénière en cours, le secrétaire général du Sénat a-t-il procédé déjà à l'appel nominal, puis à l'identification du sénateur le plus âgé et des deux plus jeunes qui constitueront le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement. Ce bureau aura pour mission de valider les pouvoirs des sénateurs, d'élaborer et d'adopter le règlement intérieur de la Chambre
chambre et d'organiser l'élection ainsi que l'installation du bureau définitif du Sénat. Au Kassa Oriental, clôture ce mardi en Mbujimayi de l'atelier d'information et de vulgarisation de la stratégie de la décentralisation financière destinée aux députés provinciaux ainsi qu'aux membres de l'Assemblée provinciale. Ces travaux de 5 jours ont été organisés par Encore, le projet d'amélioration de recouvrement des recettes et de la gestion des finances en République démocratique du Congo. Esther Ndalafina pour le reportage.
Cette formation de 5 jours a permis aux députés provinciaux et à certains membres de l'Assemblée provinciale d'acquérir des connaissances sur la gestion des finances publiques. D'après Jean-Claude Moussas Magnong, coordonnateur provincial du projet Encore, le but est de s'approprier les procédures et les outils nécessaires à une gestion saine des finances publiques.
Spécifiquement, il s'agit de renforcer les capacités techniques des élus et de leurs collaborateurs sur le processus budgétaire. Prôné, bien entendu, par la loi relative aux finances publiques et ses textes d'accompagnement. Il est question de communiquer la vision du gouvernement contenue dans la stratégie de renforcement de la décentralisation financière. Et il y a autant d'innovations.
Le député provincial Henri Kapinga, élu de Mbujimayi, estime que cette formation leur a permis de connaître leur rôle.
C'est vraiment une formation très capitale pour nous permettre de bien entrer dans la cadence.
La députée provinciale Eugénie Chilanda affirme pour sa part qu'elle a acquis de nouvelles connaissances.
Je ne suis pas du domaine, moi je fais la santé publique. J'ai trouvé que c'était une formation qui a été très importante pour moi puisque j'ai appris comment régler le budget, comment se déroule la chaîne de dépenses. Ce sont de matière que m'échappait.
Après cette formation, Encore prévoit de former également les membres du gouvernement provincial. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Kwilu, deux agents de la CENI, antenne de Massimanimba, dont le chef d'antenne et le logisticien, sont condamnés à 6 mois de prison pour avoir délocalisé un centre de vote. Un autre, l'informaticien, est acquitté faute de preuves. Le tribunal de paix de Massimanimba s'est donc prononcé sur l'affaire sur la facilitation de la fraude électorale. Les trois agents de la CENI étaient accusés de facilitation de la fraude électorale et abus de confiance lors des élections du 20 décembre dernier. Irène Bomaluzolo.
Lors de ces procès, le tribunal de paix de Massimanimba a disqualifié les infractions de fraude électorale et d'abus de confiance mises à charge des prévenus par les ministères publics, faute de preuves. Il a par contre requalifié les faits et a enfin retenu la délocalisation d'un centre de vote comme violation de la loi électorale commise par les chefs d'antenne et les logisticiens de la CENI Massimanimba, avons-nous appris des sources proches du tribunal. Tout en acquittant l'informaticien, le même tribunal a condamné ces deux derniers à 6 mois de prison et au paiement de 10 000 dollars américains à verser à la partie civile, à savoir la CENI, puis la somme de 500 000 francs congolais d'amende à l'État congolais pour avoir délocalisé ces centres de vote. Maître Olivier Mbangala est l'avocat des prévenus.
Pour nous, nous avons dit que le tribunal, le juge a bien rendu les droits parce que c'était ça d'ailleurs l'objet de notre plaidoirie. Le poursuivre pour faciliter la fraude et pour abus de confiance s'en tenait pas. Mais comme il s'est avéré lors de l'instruction qu'il y avait un centre qui aurait fonctionné en dehors des liens convenus, là nous nous courbons, nous disons qu'il a bien radi les droits.
Il faut rappeler que ces condamnés ont déjà totalisé 2 mois depuis leur arrestation. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, Paulin Lendongolia Lebabonga et Didier Lomoyo-Itekou sont confirmés gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Cela en faveur d'un arrêt de la Cour d'appel de la Tchopo rendu public hier au terme d'un procès en matière de contentieux des résultats de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de province. La Société congolaise de la pratique sage-femme Maniema sensibilise depuis la semaine dernière les élèves filles, les femmes vivant avec handicap, les femmes se trouvant dans les maisons de tolérance et autres catégories des femmes sur la planification familiale, les infections sexuellement transmissibles ainsi que sur l'hygiène menstruelle. Cette activité est financée par l'Agence des Nations Unies pour la population UNFPA. Témoin de l'événement, Florence Kizalunga.
Dans les maisons de tolérance, par exemple, ces femmes retrouvées là, indépendamment de leur volonté, louent l'action des sages-femmes qui visent, selon elles, de sauver leur vie. Suivez leurs impressions.
Les sages-femmes pensent à nous et nous donnent gratuitement des préservatifs pour se protéger contre les maladies. Nous sommes contentes. Nous sommes tellement contentes. Nos sœurs nous aident avec les préservatifs qu'on achetait cher. Ici, nous sommes dans la joie qu'elles continuent devenir ainsi. Si nous menons cette vie, ce n'est pas par notre vouloir, mais par les conditions de vie difficiles.
Pour la présidente de SCOSAF Maniema, Annika Mwanyamanase, s'intéresser aux femmes des maisons de tolérance se justifie par le fait que cette catégorie a toujours été oubliée.
Nous avons pensé à elle. Si elle se retrouve là-bas, ce n'est pas pour dire qu'elle les veille, mais c'est suite aux conditions de vie. Tellement que c'est suite aux conditions de vie, ils ont choisi ça comme métier. Maintenant, nous avons jugé bon de leur aider à renforcer aussi leur protection.
Signalons que ces activités entrent dans le cadre de la Journée internationale des sages-femmes, célébrée le 5 mai de chaque année. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les syndicats du Nigeria ont organisé lundi des manifestations à l'échelle nationale contre les récentes augmentations des prix de l'électricité suite à la suppression des subventions par le gouvernement. Les syndicats composés des fonctionnaires manifestaient devant les bureaux des services publics de l'électricité dans les grandes villes pour demander aux autorités de contrecarrer la hausse des prix qui a aggravé la situation du coût de la vie dans le pays.
L'invité.
Notre invité s'appelle Bienvenue Bouende. Il est le chargé de communication du Parc national de Virunga PNV. Il nous parle de l'impact de la zone industrielle créée depuis 2 ans maintenant par l'Alliance Virunga à Munigi dans le territoire de Nyiragongo. Cette zone, qui est la deuxième après celle de Mutwanga dans le territoire de Beni, a un double objectif, aider à protéger les ressources du Parc national de Virunga et à créer une économie alternative pour les communautés riveraines. Bienvenue Bouende s'entretient avec Bernard Nyangi. Suivez.
Monsieur, bienvenue, Bouende, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que le zoning qui est juste à côté de Goma ici contribue à quel niveau en fait à impacter sur la conservation ou les menaces sur la conservation du parc?
Il faut d'abord comprendre que de manière globale, le parc national de Virunga, entre autres menaces, il y a la situation de pauvreté que vivent les populations riveraines. Et cette situation de pauvreté, justement, a fait que pendant plusieurs années, le parc national de Virunga a été la principale source de subsistance pour ces populations-là. Et ça a justement cristallisé toutes les actions dévastatrices à l'encontre de la biodiversité du parc national de Virunga. Et donc, la réponse qui a été apportée, elle a été double, dans le cadre de l'Alliance Virunga, où d'un côté, la protection de la biodiversité, la faune et la flore du parc, mais de l'autre côté, il y a eu un travail qui a été fait dans le cadre de la promotion du développement socio-économique en faveur des populations. C'est comme ça que, après l'énergie, il y a eu justement tous ces programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui a été mis en place, justement la mise en place de parcs économiques, qu'on appelle communément zoning, que vous venez de visiter, justement de ces zonings qui sont des espaces qui sont aménagés afin d'abriter les entreprises, les transformations de production, afin justement de permettre que ces entreprises s'épanouissent, qu'ils se développent, et que justement ces entreprises soient de piliers de notre vision de la création de richesses et de la réduction de la pauvreté. Actuellement, il y a 2 parcs économiques qui sont opérationnels. Il y a un parc à Mutwanga et le parc qui est à côté de Goma à Nyiragongo. Et ces 2 parcs économiques accueillent actuellement de grandes entreprises.
Et cela contribue à quel niveau en fait jusqu'à présent selon vous?
Alors la contribution, on ne peut pas l'évaluer de manière isolée, en prenant seulement les parcs économiques. C'est pourquoi je voulais remettre ça dans le contexte global. Mais jusque-là, nous pensons que les parcs économiques sont en train de très bien jouer leur rôle. Ça veut dire que ces parcs-là favorisent l'installation des entreprises, ces installations qui créent de l'emploi et ces entreprises qui créent de la richesse. Et quand vous regardez, par exemple, le parc économique qui est autour de Goma et les nombres d'entreprises qu'il y a, vous comprenez que derrière, c'est des personnes qui sont employées là-bas. Derrière, c'est des personnes qui voient leurs revenus augmenter. Et ces personnes-là, elles ne sont peut-être plus susceptibles de constituer une menace sur les parcs. Mais un deuxième aspect, c'est que ces parcs-là favorisent le développement d'une économie au niveau local. Donc, il y a cette industrie qui se développe, c'est toute l'économie locale qui se développe. Et d'une manière ou d'une autre, c'est en train d'impacter sur la réduction de la pauvreté. C'est en ce sens que ça aide dans la conservation du parc. Parce que quand on parle de menaces sur les parcs, il y a par exemple des menaces qui sont liées à la présence, l'activisme de groupes armés. Ces groupes armés se constituent généralement grâce à une jeunesse qui est désœuvrée. Et plus il y a de l'emploi pour la jeunesse, moins il y a des personnes qui seront susceptibles d'aller faire partie de ces groupes armés-là. Ils sont à la base de tous les crimes environnementaux que nous subissons actuellement dans le parc. Mais c'est la même chose avec toutes les pressions qu'il y a sur le parc, que ce soit les déboisements, la carbonisation, la pêche illicite qui s'opère au niveau du lac Édouard et toutes les autres pressions sur le parc. Regardez les cas des envahissements du parc pour l'agriculture. Nous essayons, à travers le développement de cette économie locale, de donner une alternative à ces gens qui vont forcément chercher des espaces dans les parcs afin de vivre de l'agriculture.
Qu'est-ce que le parc national de Virunga donne comme apport pour accompagner ces entrepreneurs?
Alors, c'est encore une fois un package complet. Ça veut dire quand un entrepreneur va s'installer aux uns des parcs économiques du parc national de Virunga, ça lui permet d'avoir accès à l'électricité. C'est parce que ce parc-là, les aménageons et l'électricité est directement disponible à l'intérieur. Deuxième aspect, il y a cette facilité d'accès au crédit. Ça veut dire pour toutes les entreprises qui sont installées dans le parc économique du parc, elles ont cette facilité d'accéder au crédit grâce au programme qui a été mis en place en partenariat avec Equity BCDC. En plus de cela, ces parcs économiques offrent la sécurité, l'accès à l'eau et des possibilités de partenariat entre les entreprises.
Monsieur, bienvenue, bon dia, merci.
Merci.
C'est la fin de ce journal. À la présentation des éditions d'information depuis 5 heures ce matin, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde est assurée par Jean-Claude Nsiala dans une coordination de Élisée Chikota. À 13 heures, ça sera un bulletin d'information. Restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi, le média de la paix.